Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est le thème d'innombrables chansons populaires, le sujet de comédies romantiques ou de séries à la télévision, peine de cœur, séparation, rupture amoureuse. Et aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous vous proposons de parler aussi de ces chagrins d'amour. Comprendre pourquoi, quand l'autre vous dit c'est fini, ça fait si mal, de quelle façon rebondir après cette épreuve et comment accorder à nouveau sa confiance. Surmonter un chagrin d'amour, c'est d'abord accepter la décision de l'autre et se donner le temps de reprendre ses marques, comprendre ce qui a conduit à ce que cette relation prenne fin, comment le lien s'est-il brisé ou abîmé, ce qui, dans l'histoire commune, a pu casser l'harmonie, le désir, l'envie de continuer ensemble, apprendre sur nous, nos émotions, l'importance de nos sentiments. Et pour l'avenir, ne pas renoncer, ne pas fermer la porte à toute nouvelle relation, de peur de souffrir à nouveau, comprendre et répondre à toutes vos questions sur la page Facebook de l'émission ou à notre numéro 33 1 84 22 75 75. Effectivement, elle est longue, la liste des titres de chansons qui nous viennent en tête lorsque l'on pense à ce sujet, les chagrins d'amour. Et peut-être que vous pourrez nous expliquer au cours de cette émission pourquoi, après une rupture, certains ont l'étrange tendance ou habitude d'écouter en boucle, eh bien, des chansons tristes. Bonjour Fabienne Kremer.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, psychanalyste, thérapeute à distance et vous avez signé, docteur Kremer, le livre « Je prends soin de mon couple » publié aux Presses universitaires de France.
Priorité santé sur RFI.
Et docteur Fabienne Kremer, pour commencer, j'ai envie de dire attention, chagrin d'amour, parce que ces ruptures, eh bien, c'est loin d'être anecdotique, hein, des petites histoires comme ça qui se passent en bordure de nos vies. C'est un événement, c'est vraiment une épreuve de l'existence qu'il ne faut pas minimiser.
En effet, dans le classement des douleurs les plus importantes, le chagrin d'amour arrive très très haut. C'est une blessure. En fin de compte, si vous voulez, le chagrin d'amour, c'est quelque chose qui cumule les souffrances. C'est à la fois un abandon, donc c'est bien entendu une douleur. C'est souvent un désamour. C'est la perte d'un projet aussi et la perte d'un contact, d'un proche. Et puis finalement, c'est aussi une blessure narcissique. Donc tout ça, c'est regroupé dans une seule et même un seul et même événement. Et les chagrins d'amour, on n'oublie jamais, par exemple, son premier chagrin d'amour. Tout le monde se souvient très très bien de son premier chagrin d'amour. C'est presque une épreuve nécessaire aussi dans la vie. On en parlera peut-être, mais c'est une épreuve très difficile à surmonter. Il faut la surmonter.
Et ça peut être perçu de façon très très différente. Hein. Certains disent il n'y a pas mort d'homme. Pourtant, là, c'est plutôt tendance à minimiser. Puis de l'autre, l'excès inverse pour les personnes qui subissent ces chagrins. On ne m'y reprendra plus jamais, c'est fini. Le sens de ces expressions, peine de cœur, chagrin d'amour, il y a vraiment la dimension de souffrance. Cette dimension, elle est profonde, elle est complexe. Et cette douleur, elle s'explique, elle est même ressentie, on va dire, de façon sont totalement physiques, docteur Kremer.
Oui, et les expressions que vous citez avec des extrêmes de part et d'autre, je pense qu'elles sont intimement liées aussi à l'endroit, dans l'endroit où on vit. Mmh. Et en particulier dans les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on ne vit pas tous sous les mêmes conditions. Et par exemple, dans les pays, en France entre autres, dans un pays comme la France aujourd'hui, presque le chagrin d'amour, c'est devenu le maître étalon de la douleur. Parce que plusieurs générations, finalement, n'ont connu comme souffrance que la souffrance d'amour, celle de leurs parents, qui se sont séparés, les échecs, etc. et n'ont pas d'autres références douloureuses comme peuvent être la guerre ou le terrorisme.
Ou des deuils prématurés.
Des deuils, des situations beaucoup plus dramatiques. Je me demande d'ailleurs si la pandémie qu'on subit aujourd'hui ne va pas devenir finalement un nouveau maître étalon de la souffrance. On verra ça dans les années qui suivent.
Alors, je disais tout à l'heure, le chagrin d'amour, ça fait mal. Sur le ton un petit peu de l'humour ou de la moquerie, je disais, pourquoi est-ce qu'on écoute ces chansons tristes quand on se sent abandonné? On est dans une sorte de léthargie ou d'auto-entretien de cette peine, docteur Fabienne Kremer. Ça reflète quoi?
Mais ça reflète le fait qu'il faut toujours donner un temps à la souffrance que l'on reçoit pour pouvoir la traverser. J'aime bien cette expression de traverser la souffrance. Il ne s'agit pas de la mettre de côté, il ne s'agit pas de la mettre sous le tapis, il ne s'agit pas de la nier ou de s'installer dans le déni, il s'agit de la traverser parce qu'il y a une progressivité. Il y a le choc initialement, le traumatisme que ça génère, il y a la peine profonde, il y a la colère, c'est comme un deuil, vous savez, on passe par les mêmes étapes finalement. Et donc ces étapes-là, elles sont nécessaires à passer les unes avec les, après les autres. Donc je pense que dans l'étape du où on s'apitoie un peu sur son propre sort qui est absolument nécessaire en se disant pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi maintenant, pourquoi cette histoire, je crois qu'on doit avoir envie de se complaire un petit peu un temps là-dedans en écoutant peut-être des chansons tristes qui nous disent mais non, ça n'est pas arrivé qu'à toi, c'est arrivé à la terre entière, c'est une épreuve comme une autre, et voilà, et ça nous permet après de passer à la colère qui est certainement le moment où finalement on commence à s'en sortir.
Avec même pour certaines personnes, cette rupture qui est inadmissible, qui est rejetée, ça ne passe pas et ça peut même conduire à des actions totalement condamnables comme le harcèlement.
Oui, il faut pas oublier que les ruptures génèrent aussi beaucoup de violence et de violence conjugale, par exemple. Mmh. Donc, moi, je suis assez, je dirais, radicale sur ce sujet-là. La rupture, si vous voulez, c'est la première décision d'un couple qui est prise de façon unilatérale et c'est un droit absolu. Mmh. C'est-à-dire que vous avez le droit de quitter quelqu'un, quitte à lui faire du mal, c'est pas un problème, il aura à gérer sa souffrance, ce sera son il ou elle aura à gérer sa souffrance et ce sera un chemin. En revanche, c'est un droit absolu de quitter l'autre. Et quand on est quitté, on doit respecter ça. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, on est dans la souffrance, on aurait envie de s'attacher à quelque chose et il faut pour autant se conduire bien et ne pas aller vers le harcèlement. Et à minima, vous savez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est l'espionnage, quoi. Beaucoup de gens finalement espionnent leurs ex, les suivent à la trace, et déjà ça, si vous voulez, c'est intrusif et c'est une violence conjugale quelque part. Donc moi je suis très sévère peut-être sur les violences conjugales, mais pour moi elles n'ont jamais lieu d'être.
Ah non, mais il y a absolument pas. C'est pas sévérité, c'est juste voilà. parler des choses telles qu'elles sont. Ce sont des crimes, donc les crimes sont punis par la loi, c'est pas pour rien. Et puis quand on sépare, quand on est marié, il y a le divorce, ça existe aussi dans la loi, c'est pas pour rien. Ça veut dire que ça fait partie intégrante de nos sociétés et de notre vision de la vie. Alors justement, on va parler de cette compréhension de la rupture, comment tourner la page, et pour ça, les questions des auditrices et des auditeurs de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Avec des témoignages au téléphone, également sur la page Facebook de l'émission, comme ce témoignage par écrit de Fatoumata qui vit en Guinée, qui explique qu'après une séparation très douloureuse il y a 15 ans, eh bien depuis elle n'arrive pas à refaire sa vie, parce que pour elle, les hommes sont tous les mêmes, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, dans le genre d'expression un peu passe-partout, mais elle ajoute que cette séparation lui a permis de se forger un caractère de femme battante qui se prend en charge sans l'aide d'un homme. Alors là, la rupture n'est pas cicatrisée, mais en même temps, ça a été un chemin vers l'indépendance. Docteur Fabienne Kramer, comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage ?
Mais quand on écoute Fatoumata, enfin je ne l'écoute pas, mais ce que vous m'en dites, en tout cas, c'est que il y a eu une forme de résilience. C'est le propre de toutes les souffrances, c'est que on peut y tirer son épingle du jeu entre guillemets, et finalement à travers cette souffrance résoudre quelque chose qui doit être de sa propre problématique. J'imagine que finalement dans cette relation douloureuse, elle se sentait dépendante de l'autre, peut-être dépendante sur le plan social aussi, et donc elle a trouvé cette solution. Après, l'autre partie de son témoignage, c'est de dire que les hommes sont tous les mêmes. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'un homme, c'est un homme. Mais en revanche, pour autant, tous les hommes ne sont pas obligés de se conduire de la même façon. Et ensuite, c'est-à-dire les périodes de la vie ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand Fatoumata était peut-être dans une certaine posture en aimant assez dépendante, assez
soumise
finalement, elle rencontrait un certain type d'homme. Aujourd'hui, dans cette nouvelle posture qui est la sienne, il y a des chances qu'elle rencontre un autre type d'homme et que finalement, ce qu'elle a vécu il y a, je ne sais plus si c'est 5 ans ou 10 ans,
mais ce qu'elle a vécu à cette époque-là,
15 ans, voilà. ce qu'elle a vécu à cette époque-là n'est plus au lieu d'être aujourd'hui. Et puis, peut-être
c'est la
aussi
nouvelle
que sa
Fatoumata.
Résilience...
C'est la nouvelle voilà, Fatoumata.
Peut-être que la résilience l'a poussée à décider d'être seule, parce que ça aussi, ça peut être un choix tout à fait respectable.
Alors, question Facebook et des auditrices en ligne. Notre première auditrice, c'est vous, Rokia, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes en ligne de Bamako, alors racontez-nous ce chagrin d'amour.
Je suis avec un homme qui est en exil, ou je ne sais pas, mais il est allé travailler en Algérie.
Oui.
En Alger. Donc, il est là-bas, ça fait 2 ans. Donc, on se contacte avec le réseau social, Facebook, WhatsApp, tout. On s'appelle, on s'écrit. Donc, ça fait 2 ans qu'on est comme ça.
Vous étiez fréquenté avant directement, quand il était encore dans votre pays?
Oui, oui.
Donc, ça faisait plus de 2 ans. Vous étiez ensemble depuis, on va dire, proches l'un de l'autre pendant 2 ans. Et puis ensuite, des relations par téléphone pendant 2 ans, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça.
Et qu'est-ce qui s'est passé alors?
Donc, comme ici en Afrique, quand vu l'âge avance, on met la pression sur la fille de chercher un mari, de se marier. Donc, je lui ai dit tout simplement de faire les fiançailles. Donc, il n'a pas aimé ça. Il me dit toujours d'attendre, qu'il va venir dans quelques mois. Il ne vient pas. Il fait tout pour me ralentir, tout, jusqu'à 2 ans maintenant. Donc, je ne dis rien. Mais il y a des fois même, il dit, il faut qu'on arrête. Donc, quand il me dit ça, je lui bloque, je ne lui parle plus, il cherche d'autres manières de me contacter. Donc, on recommence encore jusqu'à maintenant. Donc, il y a quelques jours, il vient de me dire qu'il faut rompre. Donc, il n'a même pas pris le temps de m'écouter. Il a dit seulement ce que lui, il avait à dire. Ensuite, il m'a bloqué. Mais chose qu'il n'a jamais fait, à chaque fois qu'il me dit d'arrêter, c'est ça. Il m'a bloqué.
Il vous a bloqué, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus lui envoyer de message, vous ne pouvez plus lui parler. Vous êtes complètement coupé de lui alors qu'il est en Algérie. Et ça se passe comment, justement, cette rupture, on va dire, téléphonique, mais cette rupture amoureuse aussi?
Je communique avec ma meilleure amie, une amie. Donc, c'est elle qui m'aide beaucoup, mais ce n'est pas suffisant pour moi. Donc moi, pour effacer cette tristesse, cette chagrin d'amour, je me mets à manger. Je crois que c'est ça qui m'aide beaucoup.
Et vous pouvez en parler à votre famille, Rokia?
Non, non, non.
Pas possible. C'était une histoire d'amour secrète.
Oui.
Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que vous allez essayer de trouver un nouvel amour ou pour l'instant, il vous faut encore du temps?
Bon, j'essaie de trouver quelqu'un pour l'oublier, mais c'est pas du tout facile. Je me dis aussi que ça ne serait pas comme avec lui, parce que vu que je me suis trop attachée à lui.
Vous savez pas comment vous détacher. Vous avez une question à poser au docteur Fabienne Kremer?
Oui, oui.
Allez-y.
Comment faire pour oublier quelqu'un?
Alors ça, c'est une grande question, docteur Fabienne Kremer. On entend dans la voix de Rokia que c'est vraiment quelque chose qui est très douloureux. C'est difficile. Elle lui a accordé sa confiance. Et là, la déception est énorme.
Alors, c'est une question qui est intéressante. Mais quand j'entends Rokia, je ne suis pas sûre que ce soit la vraie question qui se pose à elle. Parce que je ne suis pas sûre que vous ayez envie de l'oublier. Parce que j'entends que... moi, je connais pas l'histoire, mais ce genre d'histoire, quand elle m'arrive, finalement, c'est un problème d'engagement du côté... Je crois qu'ils s'aiment, tous les deux, mais que lui a un problème d'engagement, peut-être pour des raisons diverses et variées, qui peuvent être des raisons... je sais pas, la famille qui n'accepte pas l'autre personne pour une raison... Et donc, il n'arrive pas à s'engager, et finalement, il fuit. Dans ce genre de situation, soit elle, en effet, on passe outre ces empêchements, je dirais, soit en effet, on doit se séparer parce que ce n'est pas possible de passer à ça. Et alors, vous parliez tout à l'heure au cas du fait que vous mangiez et que c'était ce qui vous aidait le plus, je ne crois pas que ça vous aide. Je crois qu'au contraire, c'est quelque chose où finalement, quand on rentre dans tous ces processus de troubles du comportement alimentaire ou de voire de boulimie,
de compensation,
finalement, on s'auto-détruit soi-même, on se fait du mal à soi-même. C'est-à-dire qu'on signe le fait qu'on se dit « mais qu'est-ce qui me manque ?» pour que cet homme ne m'aime pas ou n'aille pas dans notre projet commun. Alors, il faut savoir aussi que il existe des cas où, pour un homme, c'est très difficile de fermer une porte. C'est-à-dire que si vous regardez le nombre des divorces, 80% des divorces, c'est les femmes qui sont à l'initiative. Les hommes, ils aiment pas fermer les histoires. Globalement, ils gardent toujours un pied là, un pied là. On disait une femme dans chaque port. Ils ont du mal à fermer les portes. Donc, c'est toujours aux femmes, c'est ce qui est très bizarre, parce que Rocard, finalement, c'est vous qui aimeriez continuer cette histoire-là. Et ce sera à vous de décider qu'elle est finie.
Et en plus, il y a la brutalité de l'impossibilité de communiquer, hein, bloquer un téléphone. C'est quelque chose qui est très difficile.
C'est le fameux ghosting qui occupe beaucoup les esprits, c'est-à-dire ghosting du fantôme, c'est-à-dire d'un seul coup, c'est une nouvelle technique. On zappe l'autre, on l'efface, on lui répond pas, c'est une violence extrême. Mais du coup, ça pourrait peut-être la mettre en colère. Je vous parlais des étapes du deuil. Peut-être que ça peut aider de se dire, finalement, si je regarde cette histoire, 4 ans que vous êtes ensemble, 2 ans que cet homme fuit. Fuit d'une manière ou d'une autre, il se comporte pas bien. Donc, en effet, vous méritez certainement mieux. Et c'est là-dessus que vous pourriez peut-être avoir une sorte de prise. C'est que quelque part, quand vous vous tournez vers la boulimie, je pense qu'il y a vous tournez vers la dévalorisation de vous-même. Et je crois qu'il faudrait que vous retrouviez... personne ne mérite d'être traité comme ça.
Donc prendre conscience de ses qualités, non pas
se renarcissiser, disons, se renarcissiser.
Alors plus simplement recommencer à se trouver belle, gentille, et puis rapprochez-vous de vos amis, ils vous diront des choses belles sur vous, ils vous feront des compliments, ça vous fera du bien. Rokia, vous êtes avec nous ? Rokia, qu'on n'entend plus, et bien qu'on remercie en tout cas pour ce témoignage. J'imagine que c'est pas forcément facile de se confier sur ce genre de questions.
L'amour, hein. Je pense qu'on ne l'a pas dit en introduction, mais un chagrin d'amour, par définition, c'est fait pour être dépassé. Quoi. On se remet de ça.
C'est une parenthèse douloureuse, mais une parenthèse.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Direction la République démocratique du Congo, en ligne avec nous, c'est vous, Chadrak, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Alors le docteur Kremer, avec vous, à votre écoute, racontez-nous cette histoire de chagrin d'amour.
D'accord. Mon histoire, elle commence un peu quand j'avais 15 ans, parce que c'était la première fois que je me suis lancé dans une relation amoureuse. C'était bien. J'avais tout de suite envie de rester pour du vent avec la personne. Et puis, ça a duré quelque chose de 3 ans. Et 3 ans, ça veut dire que on était en classe terminale avec elle. On était dans une même classe. Et puis après, on devait aller à l'université. Chacun devait aller dans sa ville, on devait aller dans des villes différentes pour l'université. Mais quand même, on se voyait pendant les vacances parce qu'on devait rentrer dans notre ville. Et c'est comme ça que, de l'autre côté, où elle ira, elle va s'engager avec quelqu'un d'autre, sans toutefois que je sois au courant. Et je vais apprendre cela dans des conditions qui ne m'étaient pas favorables. C'est comme ça que j'ai connu une souffrance atroce. Je ne savais pas comment dépasser cela. Alors, ça a été difficile pour moi, premièrement. Et puis, la seule façon que j'avais trouvé de faire, c'était de me renfermer sur moi, de plus, en tout cas, faire confiance à une fille. Parce que je me disais qu'à chaque fois qu'elle va aller loin de moi, je vais se trouver quelqu'un d'autre. Et puis, c'était comme ça. Je suis resté un peu comme ça pendant 3 ans. Je vivais dans ces conditions. Et puis, à un certain moment, je vais croiser à l'université aussi, là où j'étais. J'ai croisé une autre fille. Bon, j'ai essayé de m'ouvrir un peu à elle. Elle m'a compris, elle m'a fait voir certaines choses. Elle m'a fait voir aussi notre image de la fille. Et je pouvais faire aussi confiance. Eh bien, je commençais encore la relation avec cette fille-là. L'histoire a fait 2 à 3 ans aussi. À la fin, j'ai connu la même chose. C'est que la fille est partie dans une autre fille, et puis s'est engagée.
Donc il y a eu une deuxième rupture. Est-ce qu'on vous a donné des explications, Chadrak, à ce moment-là, pour cette deuxième rupture ?
Ben non, je n'ai pas aussi demandé, parce que je me disais, bon, ça m'a fait un peu, j'ai manqué un peu de confiance en moi et puis...
Mais vous vous êtes posé des questions? Est-ce que vous avez dit, c'est peut-être à cause de cela ou de ceci, j'ai été trop ci ou trop ça? Vous vous êtes interrogé sur votre comportement?
Ouais, je me suis posé beaucoup de questions, mais je n'ai pas trouvé là où je...
Et dans les deux cas, ces jeunes filles, en fait, se sont tournées vers quelqu'un d'autre et se sont engagées. Ouais. Vous leur aviez fait des propositions d'engagement ou vous attendiez?
Bon, en fait, la première, on était trop jeunes à 18 ans. Ouais, mais je disais que, bon, voilà, moi, je trouve qu'avec toi, dès qu'on va terminer les études, et puis...
Donc vous étiez prêt à vous engager, mais plus tard?
Oui, plus tard, effectivement.
Et aujourd'hui, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un d'autre? Vous vous sentez comment?
Ben, je suis bien. Parce que j'ai pris une décision. Ma décision, c'est l'amitié avant l'amour et puis l'amitié après l'amour. Mmh. Et c'est comme ça qu'avec la deuxième, je suis toujours amie avec elle. Mmh. Et je me suis même fait amie avec son mari. Mmh. Et c'est comme ça que moi, j'essaie de surmonter un peu ces chagrins là-bas.
Et encore aujourd'hui, vous ressentez de la peine par rapport à ces histoires du passé?
Ben, en fait, avec le temps, ça fait déjà une année et puis j'ai oublié. J'ai oublié. D'ailleurs, je m'étais encore engagé quelque part et puis j'ai connu une histoire pareille et puis je continue.
Vous continuez, vous n'abandonnez pas. Docteur Fabienne Kremer, on entend une forme de sagesse hein, chez Shadrach. Et puis, justement, cette capacité à transformer l'ancien amant, l'ancienne maîtresse, en ami. Et ça, c'est quelque chose qui est assez précieux.
Alors, je ne sais pas si ça entretient la souffrance d'une certaine façon. Moi, je pense qu'il faut passer d'une histoire à une autre.
Il vaut mieux couper, selon vous ?
Souvent, il vaut mieux couper. Mm-hmm. Comme on disait tout à l'heure, Shadrach, vous êtes un homme, et c'est très difficile pour les hommes de couper pour une raison qui est un peu simple, si vous voulez, c'est que dans l'esprit d'un homme, la femme idéale, c'est un peu la somme de toutes les femmes. Mm-hmm. C'est pas péjoratif ce que je dis, hein, c'est simplement un constat, je dirais, psychanalytique. Donc, c'est très difficile pour un homme de s'engager avec une seule femme, parce qu'il a toujours l'impression de renoncer à toutes les autres, mais aussi de couper avec toutes les relations ex. C'est plus le travail des femmes qui sont un peu plus radicales. Elles mettent un homme sur un piédestal et un seul, et puis après, elles passent à l'autre, etc., etc. Mais ce qui est très beau dans le témoignage de Shadrach, c'est que finalement, il a dit « moi, je continue ». Et c'est ça.
Et on n'entend pas de rancœur.
Non, mais parce que l'amour, on le rencontre pas tous les jours et que je crois que c'est une pulsion, l'amour, auquel il ne faut jamais renoncer, mais jamais. Parce que si nos pays, si individuellement nous nous mettons à renoncer à la pulsion d'amour, alors on va vers quelque chose de très déshumanisé. Je prends souvent l'exemple du Japon, qui est un pays finalement ultra moderne, avec énormément de consommation, de rapports avec les médias, etc., etc. Au Japon, la majorité des personnes de 40 ans n'ont jamais fait l'amour physiquement à quelqu'un. Parce que il y a une sorte de disjonction qui s'est mise en place. Ils ont des tas d'outils, ils ont des applications qui leur font croire qu'ils ont une petite amie, ils ont des tas de poupées sexuelles, ils sont fans de la pornographie, etc. Et finalement, les gens ne vont plus à la rencontre de l'autre, parce que c'est vrai que l'amour, c'est un risque et que ça peut faire très mal. Mais là, moi, ça c'est quelque chose qui m'affole, parce que je me dis, si on n'arrête pas de créer des moyens de ne pas aller vers l'autre, alors on va vers un monde très déshumanisé. Et donc, quand j'entends Shadrach qui dit « je vais continuer », alors ça... Voilà.
Bravo.
Il est guéri.
Bravo.
Il a continué.
Bravo, Shadrach, et merci beaucoup pour votre témoignage. On va passer à un autre témoignage, un autre auditeur. C'est vous, Boris. Bonjour.
Bonjour, Caroline. Bonjour, docteur.
Alors, bonjour. Boris, au Cameroun, en ligne de Marois, votre séparation, ça remonte à quand?
Ça remonte à 3 ans. Il a 3 ans. J'ai connu une fille de mon quartier. On s'attendait bien et elle m'a présenté une personne, et que la personne était son frère. Et à chaque fois qu'on sortait pour les tours et que je ne vois pas son frère, moi-même j'appelle le frère là pour dire bon, on est à deux, là tu peux venir causer avec nous. Et comme ça, et après 3 ans de relation, j'ai remarqué que le gars qui m'a présenté n'était pas son frère, c'est plutôt mon rival. Et depuis lors, ce chagrin-là est en moi. Même si j'entre dans une nouvelle relation, j'ai peur que cela encore m'arrive.
Vous avez peur de la trahison, c'est ça?
Eh bien, c'est là. Donc, mes questions sont les suivantes. Est-ce qu'il existe une technique d'oublier? Et comment éviter cela pour la prochaine fois, quoi?
Alors, c'est la même question que tout à l'heure. Comment oublier? Déjà, raconter, c'est une bonne chose. Docteur Fabienne Kremer, la crise de confiance, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à vivre.
Oui, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, excusez-moi, je ne pense pas que ce soit exactement la même question, parce que là, c'est comment oublier une relation toxique, finalement. Quoique si, vous avez raison, la première relation, elle était assez toxique aussi. Mais là, en revanche, Boris, vous aviez rencontré quelqu'un de pas bien. Voilà, les choses
qui vous a ouvertement menti dès le début.
Bah, qui vous a ouvertement menti, qui se comportait mal, quoi, qui se comportait mal tant d'ailleurs vis-à-vis du premier que vis-à-vis du second. Quand on s'attache à ces relations toxiques, c'est souvent que ça nous parle de quelque chose de notre enfance où on a vécu une sorte de relation un peu toxique avec un de nos parents. Et ça, c'est très important de s'y arracher parce que finalement, on peut cumuler les relations toxiques les unes derrière les autres. Mais c'est pas un karma, entre guillemets. On peut très bien s'en sortir aussi et décider d'aller vers des gens bien. Et justement, vous dites que vous faites plus confiance aux femmes, mais il y a des tas de femmes de confiance. Celles-ci ne condamnent pas toutes les autres.
On va dire que, trivialement, Boris est tombé pas forcément sur la bonne, voilà.
Tout ah oui, non, mais c'est même incroyable comme comportement, oui. Parce que quel est son intérêt à elle? Moi, je sais, je suis psy, donc j'essaye de comprendre le point de vue des trois. Je me dis quel est l'intérêt pour elle et quel est l'intérêt pour l'autre. Vous voyez, c'est une femme qui faisait souffrir tout le monde. Donc, bon, ce serait intéressant de savoir son histoire, mais ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, pour Boris, il faut, bien entendu, classer cette histoire. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé. Voilà, vous êtes tombé sur cette personne-là. La seule responsabilité que vous puissiez avoir, c'est d'y rester attaché, finalement, de rester attaché à quelque chose qui vous a fait mal.
Et Boris, aujourd'hui, vous mettez en situation de rencontrer d'autres personnes ou vous ne sortez plus, vous êtes complètement isolé?
Je suis en relation, mais sauf quand quelqu'un elle me présente une personne, je me souviens toujours de ses chagrins. Je me dis, elle est en train de mentir.
Ça vous bloque?
Oui.
Problème de confiance, évident.
Mais c'est le chagrin d'amour, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais, quoi. Alors avec le temps, ça se tasse un petit peu, mais c'est vrai que c'est une souffrance qu'on a connue. Et vous savez, la vie, c'est risqué. C'est Woody Allen qui dit « La vie est une maladie sexuellement transmissible, toujours mortelle ». Moi, j'aime beaucoup cette expression. Et finalement, si on ne prend pas de risque dans la vie, on ne fait rien. On reste chez soi, on ne rencontre personne. Donc oui, c'est vrai, l'amour... À chaque fois qu'on rencontre l'amour, on aura des belles palpitations, des moments extrêmement enthousiasmants. On va à la rencontre de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a une curiosité, il y a un travail de l'altérité. C'est génial, mais on risque d'en souffrir un jour. Mais je crois que ça vaut le coup quand même, quoi.
Boris, bon courage. Bon courage à vous, docteur Kremer. D'autres questions d'auditeurs, notre échange va se poursuivre dans quelques minutes. Après une petite respiration musicale, tout de suite dans Priorité Santé avec Céline Banza, lauréate du prix RFI Découverte l'an dernier, avec ce titre « Na Milili ».
Qu'est-ce que tu disais dans tes lettres et tes messages? Que si jamais je pars, tu n'as plus d'histoire. Si jamais je pars, t'as plus de vie. Oh, oh. Qu'est-ce que t'as fait de nos photos, nos chansons, ma musique et moi-même? Oh, 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 oh. Na mileli awayoke otikinga, sina mabanzo nanga, yo zala toujours présent. Mon cœur coule de sang, dans mes rêves je te vois. Bima lettres et tes messages. Non, que si jamais je pars, tu n'as plus d'histoire. Si jamais je pars, t'as peu de vie. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que t'as fait de nos photos, nos chansons, ma musique et moi-même? Oh, 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 oh.
Céline Banza, prix découverte RFI 2019. Et pour connaître le nom du prochain ou de la prochaine lauréate de ce prix découverte, eh bien patience jusqu'au 10 décembre. On se retrouve dans Priorité Santé sur RFI. Les chagrins d'amour dépassés cette épreuve. Toujours avec nous en ligne notre invitée, Dr Fabienne Kremer, psychanalyste et thérapeute à distance. Fabienne Kremer, je vous soumets ce message Facebook de Didine, hein, qui écoute RFI à Douala, qui témoigne « L'amour, c'est la plus belle chose qui soit ici-bas, mais malheureusement, aussi celle qui fait le plus mal. » Et cet auditeur ajoute « On dirait qu'aimer est synonyme de souffrir, mais mieux vaut toujours essayer en amour. » On l'entend, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ne pas renoncer, docteur Kremer, ne pas renoncer, même si c'est risqué, malgré les difficultés.
Mais c'est exactement, vous savez, vivre, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, mais on va tous mourir un jour. C'est le propre de la nature humaine, de notre quête existentielle. Et l'amour, c'est pareil. Il est peut-être merveilleux justement parce qu'il peut faire souffrir. Si ça nous était... Et d'ailleurs, on voit pas mal de jeunes aujourd'hui qui essayent de tiédir la relation amoureuse. Mmh. C'est-à-dire que finalement, ils aiment moins, c'est assez tiède. Quand ils se séparent, c'est moins douloureux aussi. Mais c'est une façon de ne pas vivre la vraie quête d'amour.
Une interrogation sur l'engagement.
Oui, on est condamné à aimer, hein. Sinon on ne vit pas. Donc il faut l'accepter et accepter la douleur qui peut aller avec. Et finalement, sur une vie, moi qui suis un peu âgée maintenant, sur une vie, il y a quand même beaucoup plus de moments d'amour que de souffrance.
Et justement,
ils sont jeunes, vos auditeurs, là. Vous voyez, on entend que c'est la souffrance des jeunes. Mm-hmm. Et quand on a un peu roulé sa bosse, entre guillemets, on retient beaucoup plus de beaux moments d'amour que de moments de souffrance. Donc,
Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'échanger, de communiquer et de poser des questions quand ça pose problème.
RFI à Dakar, 92 FM.
Poser des questions, c'est ce que vous allez faire, hein, avec nous. Ibrahima, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes en ligne de Dakar, du Sénégal. Ibrahima, racontez-nous votre histoire, l'histoire de ce chagrin d'amour.
Oh, c'est une histoire qui était belle au début, mais qui s'est mal terminée, quoi. Mm-hmm. C'était une cousine. Bon, quand on était petit, les parents se sont dit qu'on va se marier ensemble, quoi, depuis... à bas âge. Donc, j'étais avec elle, je faisais tout pour elle, on s'est habitué, quoi. Mm. Entre-temps, quand j'ai décroché mon bac, j'ai bougé pour le Maroc, pour essayer de passer de l'autre côté, quoi. Mm. Mais bon, j'ai fait 3 ans, 2 ans et demi comme ça au Maroc, j'ai pas réussi à la traverser. Après, bon, quand j'étais au Maroc, je parlais très bien avec elle, on s'entendait à merveille. Maintenant, à mon retour en Guinée, en août 2017, je me suis déplacé avec mon papa chez mon oncle. Et celui-là, c'est son père, quoi. Bon, on a parlé, les parents m'ont dit que maintenant, ça est dans notre main, ceci et tout. Quand on sera prêt, on va faire l'affaire. Bon, j'étais convaincu et j'aimais la fille. Très bien même. Maintenant, j'ai bougé pour le Dakar. Maintenant, je suis là depuis 2 ans. En 2019, on parlait souvent, mais la relation était détériorée. Je comprenais pas, je n'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui n'allait pas, parce qu'elle avait complètement changé. Vous voyez, non? Après mes petites enquêtes, c'est ces petites copines-là qui rentraient dans sa tête. Laisse les gars, là, il y a d'autres qui sont pour toi, qui sont plus riches que lui, tu vois, non? Et pourtant, moi, c'est ma cousine directe et je l'aime bien. Bon, un jour, c'était le jour de la fête de Tabaski à la veille. Elle m'a demandé un jebab, j'ai acheté ça, j'ai amené. Maintenant, 4 jours après, j'ai amené ce que j'avais l'habitude qui ramenait les dépenses, quoi. Je donnais à ma petite sœur, elle est partie remettre l'argent. Et puis, bouf, la fille a dit qu'elle ne peut pas accepter cet argent parce que ses parents commencent à dire qu'il ne peut pas se marier avec moi.
Et pourquoi justement ça s'est coupé? Parce que ce que vous nous dites quand vous nous racontez votre histoire, c'est quand même, Ibrahima, il y a beaucoup d'intermédiaires. Dans votre relation avec elle, quand vous étiez face à elle, l'entente, c'était, il y avait un lien de proximité entre vous?
Il y avait un lien de proximité. La fille en question, on est élevés ensemble dans une même famille, quoi. On est grandis ensemble.
Oui, mais quand on s'entend bien avec sa sœur, ça ne veut pas dire qu'on va en faire sa femme. Hein. Il faut quand même avoir des sentiments, il faut être amoureux. Oui, vous sentiez l'amour de sa part?
Oui, je sentais l'amour de sa part. Ce que je vous raconte là, c'est tout récemment, c'est en 2019 qu'elle a commencé à changer d'avis.
Oui.
Qu'est-ce que vous voyez?
Elle vous a expliqué pourquoi?
Bon, elle m'a dit qu'elle ne veut plus, un mariage familial, quoi. Mm-hmm. Est-ce que vous voyez?
Oui, elle est peut-être... Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre?
Bon, elle ne m'a pas dit ça, mais je sais qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre.
Vous le savez. Et vous vous sentez comment aujourd'hui, Ibrahima?
Bon, après, quand elle m'a dit ça, je me suis bouleversé. 4 mois, je ne suis pas allé au boulot. Bon, je suis resté à la maison. J'ai des amis là-bas en Europe, là-bas, qui m'appelaient, qui me consolaient et tout. Mais entre-temps, j'ai pu me faire une belle fiancée maintenant. Je m'entends bien, je m'entends à merveille avec elle. Je parle bien, mais des fois, comme il y a des liens parentés entre moi et la première, des fois, quand elle m'appelle, quand j'entends sa voix, madame...
Ça ravive vos sentiments. Mais par contre, la deuxième amoureuse, Ibrahima, c'est vous qui l'avez choisie, c'est pas la famille?
Oui. Non, c'est pas la famille.
Est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous correspond plus?
Ah oui. Celle-là, quand même, on se comprend, on parle. Bon, elle remplit les critères que je veux, quoi.
Oui. Est-ce que finalement, Ibrahima, vous n'avez pas l'impression que cette deuxième rencontre dans votre vie, c'est quelque chose... de positif, parce que finalement, vous avez rencontré quelqu'un qui vous correspond vraiment?
Ça, quand même, c'est du positif, madame. Je suis à l'aise avec elle, elle m'appelle quand elle veut. Moi, si je l'appelle à tout moment, on sait ça, je parle avec elle. Elle appelle même mes parents, des fois, elle est en contact avec mes filles. Donc, celle-là, elle est intéressée, quoi. Donc, je dis, moi, si je pousse là-bas.
Docteur Fabienne Kremer, ce qu'on entend, c'est vraiment cette capacité de rebondir. Ibrahima, il n'a pas oublié complètement la première rupture et la difficulté, mais il a pu s'ouvrir sur une autre histoire.
Exactement. Et moi, ce que j'entends aussi à travers cette histoire, Ibrahima, c'est qu'ils sont passés l'un et l'autre de l'enfance, finalement, où ils étaient sous un joug parental qui leur conseillait fortement une relation, et les enfants ont toujours envie de faire plaisir à leurs parents. Donc, bien entendu, ils ont développé l'amour qui allait avec. À l'âge adulte, peut-être qu'elle y est passée un peu avant Ibrahima. C'est assez souvent, d'ailleurs, que les filles deviennent adultes avant les garçons. Mais l'âge adulte, c'est se mettre un peu à distance de ces injonctions parentales pour décider par soi-même. Et finalement, s'épanouir par soi-même. Donc, moi, je trouve que c'est une belle histoire. Finalement, un beau projet, il y a de la souffrance, bien sûr, parce qu'il y a toujours ce décalage.
Mais il n'y a pas de conflit.
Elle est partie avant lui. Pardon ?
Il n'y a pas de conflit dans cette histoire. Il y a une histoire qui est passée, l'autre s'est arrêtée, on est passé à autre chose.
Oui, et moi je dirais c'est tant mieux, parce que je ne suis pas sûre que ça aurait, dans la durée, fonctionné aussi bien que quand on choisit quelqu'un qui nous correspond. Je crois que devenir adulte, choisir les gens pas trop tôt, c'est quand même un outil qui nous garantit, non pas que ça durera éternellement, mais que ce sera plus confortable. Donc, je la trouve plutôt jolie, cette histoire, et j'espère qu'elle génère pas trop de souffrance pour Ibrahima, quand même.
Une histoire qui, on va dire, on espère, peut-être que vous nous donnerez des nouvelles, Ibrahima, une histoire qui va certainement très très bien se finir. On vous souhaite une très bonne journée, justement, cette possibilité de passer à autre chose. Et tout à l'heure, on avait un auditeur qui nous expliquait que son ancienne amie était devenue, son ancienne amoureuse était devenue justement son amie. On a Oumar d'Abidjan, là, qui pense tout le contraire. Sur Facebook, il nous écrit en effet, je lis son message d'Oumar d'Abidjan, « Après le largage, ton ex sera ton pire ennemi ». Là, c'est pas vraiment apaisé.
Non, c'est pas apaisé. Il doit être dans la phase de colère. Vous savez que j'évoquais à ce moment-là. Alors, un temps, l'ex devient son pire ennemi. Et puis après, on passe à autre chose. On dépasse ça. Mais là où c'est intéressant ce que dit Oumar, moi, je suis pas sûre que... Alors, avec les réseaux sociaux, c'est devenu très difficile, finalement, de se débarrasser de ses ex. Auparavant, si vous voulez, vous téléphoniez plus, puis ça s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, ça devient très compliqué. Pour autant, je pense qu'il faut prendre une vraie distance avec ses ex. Ça me semble pas complètement aberrant de bloquer quelqu'un, de ne plus être ami sur Facebook, de non pas pour faire du mal à l'autre, mais pour arrêter d'entretenir quelque chose qui n'a plus lieu d'être. C'est surtout pour se libérer soi, tourner une page et pouvoir se tourner vers autre chose. Donc, ma foi, je suis d'accord en partie avec ce que dit Oumar.
Éviter de raviver la blessure. Message plein de sagesse, là, c'est Anelka de Conakry, un poste. Je lis là encore. L'amour est comme toute autre chose, il peut aussi avoir une fin. Sagesse donc. Et quand c'est fini, tournons la page. Rebondissons ailleurs, la vie est très belle, même après une déception ou un chagrin d'amour. Moi, je crois toujours à l'amour. Alors là, on va dire, j'imagine que vous êtes tout à fait d'accord avec
ça. C'est quelqu'un qui m'a lu, j'imagine. Hein, non, je plaisante, mais je sais pas. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est exactement ça. En fait, c'est tout le terme de l'intemporalité des choses. On ne peut jamais garantir, et on aimerait bien que nos amours soient garantis ad vitam aeternam, qu'il y ait un service après-vente qui nous permette de les réparer, etc. Mais c'est pas le cas. L'amour, c'est une aventure, on ne sait pas où elle nous mène, elle nous fait grandir, elle nous donne des ailes, mais de temps en temps, elle nous fauche. Et alors, il faut remonter en selle et recommencer. Et c'est ça notre vie d'humain, quoi.
Et une dernière auditrice à qui on donne la parole, il nous reste quelques minutes. On rejoint à toute vitesse le tchat Djamena pour retrouver Judita. Bonjour.
Bonjour, la famille de la diaspora.
Allez-y, moi, allez-y ici. Judita.
Et moi, j'avais vécu une histoire d'amitié dans laquelle cela m'a mis dans le chagrin. Mm-hmm. J'avais un petit ami qu'on a eu à faire 3 ans ensemble. Au final, je me suis retrouvée déçue par lui. Quand je me suis rendue compte, j'avais trouvé qu'il avait enceinte une fille. Mm-hmm. Et quand on était ensemble, j'avais des soupçons qu'on me disait qu'il nous sortait d'eux. Mais par l'amour, je négligeais cela. Mmh. C'est ainsi, après, je me suis retrouvée dans un grand chagrin de déception. Mmh. Et je me suis retirée de lui pour pouvoir me lancer dans une autre relation. Mmh.
Et aujourd'hui, vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, Judita?
Oui, je me suis rencontrée avec un autre. On a fait quelques mois ensemble déjà.
Mmh. Et comment ça se passe?
Maintenant, on vit un peu mieux ensemble, mais c'est vraiment que je n'arrive pas toujours à oublier l'autre.
Et vous restez en contact avec lui?
Oui, parfois il m'appelle pour avoir de mes nouvelles.
Et quand il vous appelle, il vous tient des propos très, très proches, comme si vous étiez encore ensemble, ou vraiment avec sa nouvelle vie, puisqu'on a compris, il a eu un enfant, il a tourné la page de votre histoire?
Oui, c'est ça.
Il a tourné la page ou il reste proche?
Toujours, on est un peu proche. Quand il m'appelle, je le sens que l'amour existe toujours encore entre nous.
Et ça, vous l'avez dit à votre nouvel ami que vous aviez toujours des contacts avec lui ou vous lui cachez ces contacts?
Je lui cache.
Et vous n'avez pas peur que s'il le découvre à son tour, il se sente trahi comme vous-même vous vous êtes senti trahi?
C'est ainsi, puisque dès le début de notre contact, lui-même, il m'avait d'abord expliqué en disant qu'il ne veut pas que j'arrive à sortir avec quelqu'un d'autre, à part lui, ceci sera. Il m'avait expliqué avant tout.
Ce qui se comprend tout à fait, docteur Fabienne Kremer, on comprend que le nouvel amoureux de Judita, il n'ait pas envie d'avoir quelqu'un d'autre dans le paysage. Et ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure sur la posture à adopter par rapport à un ex. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde le contact? Est-ce qu'on oublie son numéro? Qu'est-ce qu'on fait?
C'est exactement ça. Ben, moi, je pense que on se met peut-être à la place aussi. Imaginons pour Juditha que son conjoint actuel fasse la même chose. Mm-hmm. Je pense qu'elle comprendrait tout de suite la blessure que ça pourrait représenter pour lui. Mm-hmm. Donc, ne faisons pas à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Donc, je pense qu'en effet, dans les histoires d'amour, il faut essayer de clarifier les choses. Et comme je le disais, les hommes ont toujours tendance à garder un peu un lien. Donc, ce sera à Juditha de dire à celui précédent, de lui dire que voilà, il faut dépasser ça et qu'il faut qu'il la laisse tranquille. Mais de tous les témoignages qu'on a entendus, je voulais dire, Caroline, quand même, le chagrin d'amour, ça peut aussi générer et fabriquer des dépressions. Mmh. Donc, de temps en temps, quand on n'arrive pas à se remettre d'un chagrin d'amour, il faut consulter.
Tout à fait.
Il faut consulter parce que, de temps en temps, un traitement peut aider quand même à dépasser les choses.
Et soulager la
peine.
Il ne
faut pas s'installer dans un chagrin d'amour. Hein.
Soulager.
Il y a des temps. Voilà.
Tout à fait.
Soulager, oui.
Soulager, c'est essentiel. Le mot de la fin, hein. Docteur Fabienne Crémer, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions des auditeurs et auditrices de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, thérapeute à distance. Et avant de se dire tout à fait au revoir, groove et nostalgie, on va se faire plaisir avec la fratrie la plus célèbre de l'histoire de la musique, les Jackson 5, I Want You Back. Priorité Santé touche à sa fin, ça donne envie de danser. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassène, Elsa Oilazola, Didier Bleu et Laurent Hérault qui dansaient derrière la console. On se retrouve demain, d'ici là portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance, qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Autour de la question.